Chapitre 19, la plateforme du donjon de Vincennes, la régence, le roi est mort, vive le roi. Cependant, Henri de Navarre se promenait seul et rêveur sur la terrasse du donjon. Il savait la cour au château, qu'il voyait à 100 pas de lui, et à travers les murailles, son œil perçant devinait Charles moribond. Il faisait un temps d'azur et d'or. Mais le regard de Henri ne se fixait ni sur les plaines verdoyantes, ni sur les cimes chenues et dorées. Son regard franchissait les espaces intermédiaires et allait au-delà, se fixer ardent d'ambition sur cette capitale de France destinée à devenir un jour la capitale du monde. « Paris, murmurait le roi de Navarre, voilà Paris, c'est-à-dire la joie, le triomphe, la gloire, le pouvoir et le bonheur. Paris, où est le Louvre, et le Louvre, où est le trône ? Et dire qu'une seule chose me sépare de ce Paris tant désiré. » Et en ramenant son regard de Paris à Vincennes, il aperçut à sa gauche, dans un vallon voilé par des amandiers en fleurs, un homme sur la cuirasse duquel se jouait obstinément un rayon de soleil. Cet homme était sur un cheval plein d'ardeur et tenait en main un cheval qui paraissait non moins impatient. Le roi de Navarre arrêta ses yeux sur le cavalier et le vit tirer son épée hors du fourreau, passer la pointe dans son mouchoir et agiter ce mouchoir en façon de signal. Au même instant, sur la colline en face, un signal pareil se répéta, puis tout autour du château voltigea comme une ceinture de mouchoirs. C'était de Mouy et ses huguenots qui, sachant le roi mourant et qui craignant qu'on ne tentât quelque chose contre Henri, s'étaient réunis et se tenaient prêts à défendre ou à attaquer. Henri reporta ses yeux sur le cavalier qu'il avait vu le premier, se courba hors de la balustrade, couvrit ses yeux de sa main et, brisant ainsi les rayons du soleil qui l'éblouissaient, reconnut le jeune huguenot. « De Mouy ! » s'écria-t-il, comme si celui-ci eût pu l'entendre. Et dans sa joie de se voir ainsi environné d'amis, il leva lui-même son chapeau et fit voltiger son écharpe. Toutes les banderoles blanches s'agitèrent de nouveau avec une vivacité qui témoignait de leur joie. En ce moment, Henri entendit des pas qui retentissaient dans l'escalier de pierre. Il se retira vivement. Les huguenots comprirent la cause de cette retraite, les épées rentrèrent au fourreau et les mouchoirs disparurent. Henri vit déboucher de l'escalier une femme dont la respiration haletante dénonçait une marche rapide et reconnut, non sans une secrète terreur qu'il éprouvait toujours en l'apercevant, Catherine de Médicis. Derrière elle étaient deux gardes qui s'arrêtèrent au haut de l'escalier. « Oh !» murmura Henri, « il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau et de grave pour que la reine-mère vienne ainsi me chercher sur la plateforme du donjon de Vincennes. » Catherine s'assit sur un banc de pierre adossé au créneau pour reprendre haleine. Henri s'approcha d'elle avec son plus gracieux sourire. « Serait-ce moi que vous cherchez, ma bonne mère » dit-il. « Oui, monsieur, » répondit Catherine, « j'ai voulu vous donner une dernière preuve de mon attachement. Nous touchons à un moment suprême. Le roi se meurt et veut vous entretenir. »« Moi ?» dit Henri en tressaillant de joie. « Oui, vous. » On lui a dit, j'en suis certaine, que non seulement vous regrettez le trône de Navarre, mais encore que vous ambitionnez le trône de France. Oh, fit Henri, ce n'est pas, je le sais bien, mais il le croit, lui, et nul doute que cet entretien qu'il veut avoir avec vous n'ait pour but de vous tendre un piège. À moi ? Oui, Charles, avant de mourir, veut savoir ce qu'il y a à craindre ou à espérer de vous. Et de votre réponse à ces offres, faites-y attention, dépendront les derniers ordres qu'il donnera, c'est-à-dire votre mort ou votre vie. Mais que doit-il donc m'offrir ? Que sais-je, moi ? Des choses impossibles, probablement. Enfin, ne devinez-vous pas, ma mère ? Non, mais je suppose, par exemple... Catherine s'arrêta. Quoi ? Mais je suppose que, vous voyant ces vues ambitieuses qu'on lui a dites, il veuille acquérir de votre bouche la preuve de cette ambition. Supposez qu'il vous tente comme autrefois ont tenté les coupables pour provoquer un aveu sans torture. Supposez, continua Catherine en regardant fixement Henri, qu'il vous propose un gouvernement, la régence même. Une joie indicible s'épandit dans le cœur oppressé de Henri, mais il devina le coup, et cette âme vigoureuse et souple rebondit sous l'attaque. « À moi, dit-il, le piège serait trop grossier, à moi la régence quand il y a vous, quand il y a mon frère d'Alençon. » Catherine se pinça les lèvres pour cacher sa satisfaction. Alors, dit-elle vivement, vous renoncez à la régence ? Le roi est mort, pensa Henri, et c'est elle qui me tend un piège. Puis, tout haut, il faut d'abord que j'entende le roi de France, répondit-il, car de votre aveu même, madame, tout ce que nous avons dit là n'est que supposition. Sans doute, dit Catherine, mais vous pouvez toujours répondre de vos intentions. Mon Dieu, dit innocemment Henri, n'ayant pas de prétention, je n'ai pas d'intention. Ce n'est point répondre cela, dit Catherine, sentant que le temps pressait et se laissant emporter à sa colère. D'une façon ou de l'autre, prononcez-vous. Je ne puis pas me prononcer sur des suppositions, madame. Une résolution positive est chose si difficile et surtout si grave à prendre qu'il faut attendre les réalités. Écoutez, monsieur, dit Catherine, il n'y a pas de temps à perdre, et nous le perdons en discussions vaines et en finesse réciproque. Jouons notre jeu en roi et en reine. Si vous acceptez la régence, vous êtes mort. Le roi vit, pensa Henri, puis tout haut. Madame, dit-il avec fermeté, Dieu tient la vie des hommes et des rois entre ses mains. Il m'inspirera qu'on dise à sa majesté que je suis prêt à me présenter devant elle. Réfléchissez, monsieur. Depuis 2 ans que je suis proscrit, depuis 1 mois que je suis prisonnier, répondit Henri gravement, j'ai eu le temps de réfléchir, madame, et j'ai réfléchi. Ayez donc la bonté de descendre la première près du roi et de lui dire que je vous suis. Ces deux braves, ajouta Henri en montrant les 2 soldats, veilleront à ce que je ne m'échappe point. D'ailleurs, ce n'est point mon intention. Il y avait un tel accent de fermeté dans les paroles de Henri que Catherine vit bien que toutes ses tentatives, sous quelque forme qu'elles fussent déguisées, ne gagneraient rien sur lui. Elle descendit précipitamment. Aussitôt qu'elle l'eut disparu, Henri courut au parapet et fit à Demouy un signe qui voulait dire « Approchez-vous et tenez-vous prêt à tout événement ». Demouy, qui était descendu de cheval, sauta en selle et, avec le second cheval de main, vint au galop prendre position à 2 portées de mousquet du donjon. Henri le remercia du geste et descendit. Sur le premier palier, il trouva les 2 soldats qui l'attendaient. Un double poste de Suisse et de chevaux légers gardait l'entrée des cours. Il fallait traverser une double haie de pertuisane pour entrer au château et pour en sortir. Catherine s'était arrêtée là et attendait. Elle fit signe aux 2 soldats qui suivaient Henri de s'écarter et posant une de ses mains sur son bras. « Cette cour a 2 portes, dit-elle, à celle-ci que vous voyez derrière les appartements du roi. Si vous refusez la régence, un bon cheval et la liberté vous attendent. À celle-là, sous laquelle vous venez de passer, si vous écoutez l'ambition, que dites-vous ? Je dis que si le roi me fait régent, madame, c'est moi qui donnerai des ordres aux soldats et non pas vous. » Je dis que si je sors du château à la nuit, toutes ces piques, toutes ces hallebardes, tous ces mousquets s'abaisseront devant moi. Insensé, murmura Catherine exaspérée, crois-moi, ne joue pas avec Catherine ce terrible jeu de la vie et de la mort. Et pourquoi pas, dit Henri en regardant fixement Catherine, pourquoi pas avec vous aussi bien qu'avec un autre, puisque j'y ai gagné jusqu'à présent. « Montez donc chez le roi, monsieur, puisque vous ne voulez rien croire et rien entendre, » dit Catherine, en lui montrant l'escalier d'une main et en jouant avec un des 2 couteaux empoisonnés qu'elle portait dans cette gaine de chagrin noir devenue historique. « Passez la première, madame, » dit Henri, « tant que je ne serai pas régent, l'honneur du pas vous appartient. » Catherine, devinée dans toutes ses intentions, n'essaya point de lutter et passa la première. Le roi commençait à s'impatienter, et il avait fait appeler monsieur de Nançay dans sa chambre et venait de lui donner ordre d'aller chercher Henri lorsque celui-ci parut. En voyant son beau-frère apparaître sur le seuil de la porte, Charles poussa un cri de joie, et Henri demeura épouvanté comme s'il se fût trouvé face à un cadavre. Les 2 médecins qui étaient à ses côtés s'éloignèrent. Le prêtre qui venait d'exhorter le malheureux prince à une fin chrétienne se retira également. Charles IX n'était pas aimé, et cependant on pleurait beaucoup dans les antichambres. À la mort des rois, quels qu'ils aient été, il y a toujours des gens qui perdent quelque chose et qui craignent de ne pas retrouver ce quelque chose sous leur successeur. Ce deuil, ces sanglots, les paroles de Catherine, l'appareil sinistre et majestueux des derniers moments d'un roi, enfin, la vue de ce roi lui-même, atteint d'une maladie qui s'est reproduite depuis, mais dont la science n'avait pas encore eu l'exemple, produisirent sur l'esprit encore jeune et par conséquent encore impressionnable de Henri un effet si terrible que, malgré sa résolution de ne point donner de nouvelles inquiétudes à Charles sur son état, il ne put, comme nous l'avons dit, réprimer le sentiment de terreur qui se peignit sur son visage en apercevant ce moribond tout ruisselant de sang. Charles sourit avec tristesse. Rien n'échappe aux mourants des impressions de ceux qui les entourent. « Venez, Henriot, » dit-il en tendant la main à son beau-frère avec une douceur de voix que Henri n'avait jamais remarquée. « Venez, car je souffrais de ne pas vous voir. Je vous ai bien tourmenté dans ma vie, mon pauvre ami, et parfois je me le reproche maintenant, croyez-moi. Parfois j'ai prêté les mains à ceux qui vous tourmentaient, mais un roi n'est pas maître des événements. » Et outre ma mère Catherine, outre mon frère d'Anjou, outre mon frère d'Alençon, j'avais au-dessus de moi, pendant ma vie, quelque chose de gênant, qui cesse du jour où je touche à la mort, la raison d'État. « Sire, balbutia Henri, je ne me souviens plus de rien que de l'amour que j'ai toujours eu pour mon frère, que du respect que j'ai toujours porté à mon roi. » « Oui, oui, tu as raison, dit Charles. Je te suis reconnaissant de parler ainsi, Henriot, car en vérité tu as beaucoup souffert sous mon règne, sans compter que c'est pendant mon règne que ta pauvre mère est morte. Mais tu as dû voir que l'on me poussait souvent. Parfois j'ai résisté, mais parfois aussi j'ai cédé de fatigue. Mais tu l'as dit, ne parlons plus du passé. Maintenant c'est le présent qui me pousse, c'est l'avenir qui m'effraie. » Et en disant ces mots, le pauvre roi cacha son visage livide dans ses mains décharnées. Puis, après un instant de silence, secouant son front pour en chasser ses sombres idées et faisant pleuvoir autour de lui une rosée de sang, « Il faut sauver l'État, » continua-t-il à voix basse et en s'inclinant vers Henri, « il faut l'empêcher de tomber entre les mains des fanatiques ou des femmes. » Charles, comme nous venons de le dire, prononça ces paroles à voix basse, et cependant, Henri crut entendre derrière la coulisse du lit comme une sourde exclamation de colère. Peut-être quelle couverture pratiquée dans la muraille, à l'insu de Charles lui-même, permettait-elle à Catherine d'entendre cette suprême conversation. « Des femmes ?» reprit le roi de Navarre, pour provoquer une explication. « Oui, Henri, dit Charles, ma mère veut la régence en attendant que mon frère de Pologne revienne. Mais écoute ce que je te dis, il ne reviendra pas. Comment? Il ne reviendra pas? S'écria Henri, dont le cœur bondissait sourdement de joie. Non, il ne reviendra pas, continua Charles, ses sujets ne le laisseront pas partir. Mais, dit Henri, croyez-vous, mon frère, que la reine-mère ne lui aura pas écrit d'avance? « Si fait, mais Nancy a surpris le courrier à Château-Thierry et m'a rapporté la lettre. Dans cette lettre, j'allais mourir, disait-elle, mais moi aussi j'ai écrit à Varsovie. Ma lettre y arrivera, j'en suis sûr, et mon frère sera surveillé. Donc, selon toute probabilité, Henri, le trône va être vacant. » Un second frémissement, plus sensible encore que le premier, se fit entendre dans l'alcôve. Décidément, se dit Henri, elle est là, elle l'écoute, elle attend. Charles n'entendit rien. Or, poursuivit-il, je meurs sans héritier mâle. Puis il s'arrêta. Une douce pensée parut éclairer son visage et, posant sa main sur l'épaule du roi de Navarre, hélas, te souviens-tu, Henriot, continua-t-il, te souviens-tu de ce pauvre enfant que je t'ai montré un soir, dormant dans son berceau de soie, éveillé par un ange? Hélas, Henriot, ils me le tueront. « Oh, sire !» s'écria Henri, dont les yeux se mouillèrent de larmes, « je vous jure, devant Dieu, que mes jours et mes nuits se passeront à veiller sur sa vie. Ordonnez, mon roi !»« Merci, Henriot, merci !» dit le roi, avec une effusion qui était bien loin de son caractère, mais que cependant lui donnait la situation. « J'accepte ta parole. Non, fais pas un roi. Heureusement, il n'est pas né pour le trône, mais un homme heureux. Je lui laisse une fortune indépendante qu'il ait, la noblesse de sa mère, celle du cœur. » Peut-être voudrait-il mieux pour lui qu'on le destinât à l'Église, il inspirerait moins de crainte. Oh, il me semble que je mourrais sinon heureux, du moins tranquille, si j'avais là pour me consoler les caresses de l'enfant et le doux visage de la mère. Sire, ne pouvez-vous les faire venir? Et malheureux, il ne sortirait pas d'ici. Voilà la condition des rois, Henriot. Ils ne peuvent ni vivre ni mourir à l'aise. Mais depuis ta promesse, je suis plus tranquille. Henri réfléchit. Oui, sans doute, mon roi, j'ai promis, mais pourrais-je tenir? Que veux-tu dire? Moi-même, ne serais-je pas proscrit, menacé comme lui, plus que lui-même, car moi, je suis un homme et lui n'est qu'un enfant. Tu te trompes, répondit Charles. Moi, mort, tu seras fort et puissant, et voilà qui te donnera la force et la puissance. À ces mots, le moribond tira un parchemin de son chevet. Tiens, dit-il. Henri parcourut la feuille revêtue du sceau royal. « La régence à moi, sire ? » dit-il en pâlissant de joie. « Oui, la régence à toi, en attendant le retour du duc d'Anjou. Et comme, selon toute probabilité, le duc d'Anjou ne reviendra point, ce n'est pas la régence que te donne ce papier, c'est le trône. »« Le trône, à moi, » murmura Henri. « Oui, dit Charles, à toi seul, seul digne et surtout seul capable de gouverner ces galants débauchés, ces filles perdues qui vivent de sang et de larmes. » Mon frère d'Alençon est un traître, il sera traître envers tous, laisse-le dans le donjon, je l'ai mis. Ma mère voudra te tuer, exile-la. Mon frère d'Anjou, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 1 an peut-être, quittera Varsovie et viendra te disputer la puissance, répond à Henri par un bref du pape. J'ai négocié cette affaire avec mon ambassadeur, le duc de Nevers, et tu recevras incessamment le bref. Oh mon roi, ne crains qu'une chose, Henri, la guerre civile. Mais en restant converti, tu l'évites, car le parti huguenot n'a consistance qu'à la condition que tu te mettras à sa tête, et monsieur de Condé n'est pas de force à lutter contre toi. La France est un pays de plaine, Henri, par conséquent un pays catholique. Le roi de France doit être le roi des catholiques, et non le roi des huguenots, car le roi de France doit être le roi de la majorité. On dit que j'ai des remords d'avoir fait la Saint-Barthélemy. Des doutes, oui. Des remords, non. On dit que je rends le sang huguenot par tous les pores, et tu sais ce que je rends, de l'arsenic et non du sang. Oh, sire, que dites-vous? Rien. Si ma mort doit être vengée, Henriot, elle doit être vengée par Dieu seul. N'en parlons plus que pour prévoir les événements qui en seront la suite. Je te lègue un bon parlement, une armée éprouvée. Appuie-toi sur le parlement et sur l'armée pour résister à tes ennemis, ma mère et le duc d'Alençon. En ce moment, on entendit dans le vestibule un bruit sourd d'armes et de commandements militaires. « Je suis mort, » murmura Henri. Ah, « Tu crains? Tu hésites ?» dit Charles avec inquiétude. « Moi, si, » répliqua Henri. « Non, je ne crains pas. Non, je n'hésite pas. J'accepte. » Charles lui serra la main. Et comme en ce moment, sa nourrice approchait de lui, tenant une potion qu'elle venait de préparer dans une chambre voisine, sans faire attention que le sort de la France se décidait à 3 pas d'elle, « Approche, ma mère, bonne nourrice, et dis aussi qu'on fasse venir monsieur d'Alençon. » Catherine et le duc d'Alençon, livides d'effroi et tremblants de fureur tout ensemble, entrèrent quelques minutes après. Comme Henri l'avait deviné, Catherine savait tout et avait tout dit en peu de mots à François. Ils firent quelques pas et s'arrêtèrent, attendant. Henri était debout au chevet du lit de Charles. Le roi leur déclara sa volonté. « Madame, dit-il à sa mère, si j'avais un fils, vous seriez régente, ou à défaut de vous, ce serait le roi de Pologne, ou à défaut de roi de Pologne, enfin, ce serait mon frère François, mais je n'ai pas de fils, et après moi, le trône appartient à mon frère le duc d'Anjou, qui est absent. Comme un jour ou l'autre il viendra réclamer ce trône, je ne veux pas qu'il trouve à sa place un homme qui puisse, par des droits presque égaux, lui disputer ses droits. » et qui expose par conséquent le royaume à des guerres de prétendants. Voilà pourquoi je ne vous prends pas pour régente, madame, car vous auriez à choisir entre vos 2 fils, ce qui serait pénible pour le cœur d'une mère. Voilà pourquoi je ne choisis pas mon frère François, car mon frère François pourrait dire à son aîné, « Vous aviez un trône, pourquoi l'avez-vous quitté ?» Non, je choisis donc un régent qui puisse prendre en dépôt la couronne et qui la garde sous sa main et non sur sa tête. Ce régent, saluez-le, madame, saluez-le, mon frère, ce régent, c'est le roi de Navarre. Et avec un geste de suprême commandement, il salua Henri de la main. Catherine et d'Alençon firent un mouvement qui tenait le milieu entre un tressaillement nerveux et un salut. Tenez, monsieur le régent, dit Charles, roi de Navarre, voici le parchemin qui, jusqu'au retour du roi de Pologne, vous donne le commandement des armées, les clés du trésor, le droit et le pouvoir royal. Catherine dévorait Henri du regard. François était si chancelant qu'il pouvait à peine se soutenir. Mais cette faiblesse de l'un et cette fermeté de l'autre, au lieu de rassurer Henri, lui montraient le danger présent, debout, menaçant. Henri n'en fit pas moins un effort violent, et surmontant toutes ses craintes, il prit le rouleau des mains du roi, puis se redressant de toute sa hauteur, il fixa sur Catherine et François un regard qui voulait dire « Prenez garde, je suis votre maître ». Catherine comprit ce regard. « Non, non, jamais, dit-elle, jamais ma race ne pliera la tête sous une race étrangère, jamais un Bourbon ne régnera en France tant qu'il restera un Valois. « ma mère !» s'écria Charles IX en se redressant dans son lit au drap rougi, plus effrayant que jamais. « Prenez garde, je suis roi encore. Pas pour longtemps, je sais bien, mais il ne faut pas longtemps pour punir les meurtriers et les empoisonneurs. Eh bien, donnez-le cet ordre si vous l'osez. Moi, je vais donner les miens. Venez, François, venez. » Et elle sortit rapidement, entraînant avec elle le duc d'Alençon. « Nancy !» cria Charles. « Nancy, à moi, je l'ordonne, je le veux. Nancy, arrêtez ma mère, arrêtez mon frère, arrêtez !» Une gorgée de sang coupa la parole à Charles au moment où le capitaine des gardes ouvrit la porte et le roi, suffoqué, râla sur son lit. Nancy n'avait entendu que son nom. Les ordres qui avaient suivi, prononcés d'une voix moins distincte, s'étaient perdus dans l'espace. « Gardez la porte, dit Henri, et ne laissez entrer personne. » Nancy salua et sortit. Henri reporta ses yeux sur ce corps inanimé et qu'on eût pu prendre pour un cadavre si un léger souffle n'eût agité la frange d'écume qui bordait ses lèvres. Il regarda longtemps, puis, se parlant à lui-même, « Voici l'instant suprême, dit-il. Faut-il régner? Faut-il vivre ?» Au même instant, la tapisserie de l'alcôve se souleva, une tête pâle parut derrière et une voix vibra au milieu du silence de mort qui régnait dans la chambre royale. « Vivez !» dit cette voix. « René !» s'écria Henri. « Oui, sire. Ta prédiction était donc fausse, je ne serai donc pas roi ?» s'écria Henri. « Vous le serez, sire, mais l'heure n'est pas encore venue. « Et comment le sais-tu ? Parle, que je sache si je dois te croire. « Écoutez. J'écoute. Baissez-vous. » Henri s'inclina au-dessus du corps de Charles. René se pencha de son côté. La largeur du lit les séparait seuls, et encore la distance était-elle diminuée par leur double mouvement. Entre deux était couché, et toujours sans voix et sans mouvement, le corps du roi moribond. « Écoutez, dit Henri, placé ici par la reine-mère pour vous perdre, j'aime mieux vous servir, moi, car j'ai confiance en votre horoscope. Et en vous servant, je trouve à la fois dans ce que j'ai fait l'intérêt de mon corps et de mon âme. Est-ce la reine-mère aussi qui t'a ordonné de dire cela ? Demanda Henri, plein de doute et d'angoisse. Non, dit René, mais écoutez un secret. Et il se pencha encore davantage. Henri l'imita, de sorte que les deux têtes se touchaient presque. Cet entretien des deux hommes courbés sur le corps d'un roi mourant avait quelque chose de si sombre que les cheveux du superstitieux Florentin se dressaient sur sa tête et qu'une sueur abondante perlait sur le visage de Henri. « Écoutez, continua René, écoutez un secret que je sais seul et que je vous révèle si vous me jurez, sur ce mourant, de me pardonner la mort de votre mère. »« Je vous l'ai déjà promis une fois, dit Henri, dont le visage s'assombrit. « Promis, mais non juré, dit René, en faisant un mouvement en arrière. « Je le jure, dit Henri, étendant la main droite sur la tête du roi. « Eh bien, sire, dit précipitamment le Florentin, le roi de Pologne arrive. « Non, dit Henri, le courrier a été arrêté par le roi Charles. « Le roi n'en a arrêté qu'un sur la route de Château-Thierry, mais la reine-mère, dans sa prévoyance, en avait envoyé trois par trois routes. « Hein, malheur à moi, dit Henri. Un messager est arrivé ce matin de Varsovie. Le roi partait derrière lui sans que personne songeât à s'y opposer, car à Varsovie, on ignorait encore la maladie du roi. Il ne précède Henri d'Anjou que de quelques heures. « Oh, si seulement j'avais 8 jours, dit Henri. Oui, mais vous n'avez pas 8 heures. Avez-vous entendu le bruit des armes que l'on préparait ? Oui, ces armes, on les préparait à votre intention. Ils viendront vous tuer jusqu'ici, jusque dans la chambre du roi. Le roi n'est pas mort encore. » René regarda fixement Charles. « Dans 10 minutes, il le sera. Vous avez donc 10 minutes à vivre, peut-être moins. Et que faire alors ? Fuir, sans perdre 1 minute, sans perdre 1 seconde. Mais par où? S'ils attendent dans l'antichambre, ils me tueront quand je sortirai. Écoutez, je risque tout pour vous, ne l'oubliez jamais. Et soyez tranquille. Suivez-moi par ce passage secret, je vous conduirai jusqu'à la poterne. Puis, pour vous donner du temps, j'irai dire à la belle-mère que vous descendez. Vous serez censé avoir découvert ce passage secret et en avoir profité pour fuir. Venez, venez. Henri se baissa vers Charles et l'embrassa au front. « Adieu, mon frère, dit-il, je n'oublierai point que ton dernier désir fut de me voir te succéder. Je n'oublierai pas que ta dernière volonté fut de me faire roi. Meurs en paix. Au nom de nos frères, je te pardonne le sang versé. »« Alerte, alerte, dit René, reviens à lui, fuyez, avant qu'il ne rouvre les yeux, fuyez !»« Nourrice, murmura Charles, nourrice !» Henri avait saisi au chevet de Charles l'épée désormais inutile du roi mourant. Il mit le parchemin qui le faisait régner dans sa poitrine, baisa une dernière fois le front de Charles, tourna autour du lit et s'élança vers l'ouverture qui se ferma derrière lui. « Nourrice !» cria le roi d'une voix plus forte. « Nourrice !» La bonne femme accourut. « Eh bien, qu'y a-t-il, mon Charlot ? » demanda-t-elle. « Nourrice, dit le roi, la paupière ouverte et l'œil dilaté par la fixité terrible de la mort, il faut qu'il se soit passé quelque chose pendant que je dormais. Je vois une grande lumière, je vois Dieu, notre Maître, je vois mon Seigneur Jésus, je vois la benoîte Vierge Marie. Il le prie, il le supplie pour moi. Le Seigneur Tout-Puissant me pardonne. Il m'appelle. Mon Dieu, recevez-moi dans votre miséricorde. Mon Dieu, oubliez que j'étais roi, car je viens à vous sans sceptre et sans couronne. » Mon Dieu, oubliez les crimes du roi pour ne vous rappeler que les souffrances de l'homme, mon Dieu, me voilà. » Et Charles, qui, à mesure qu'il prononçait ces paroles, s'était soulevé de plus en plus comme pour aller au-devant de la voix qu'il appelait, Charles, après ces derniers mots, poussa un soupir et retomba, immobile et glacé, entre les bras de sa nourrice. Pendant ce temps, et tandis que les soldats commandés par Catherine se portaient sur le passage connu de tous par lequel Henri devait sortir, Henri, guidé par René, suivait le couloir secret et gagnait la poterne, sautait sur le cheval qui l'attendait et piquait vers l'endroit où il savait retrouver De Mouy. Tout à coup, au bruit de son cheval dont le galop faisait retentir le pavé encore, quelques sentinelles se retournèrent en criant « Il fuit ! Il fuit !» « Qui cela ? » s'écria la reine-mère en s'approchant d'une fenêtre. « Le roi Henri, le roi de Navarre !» criaient les sentinelles. « Feu !» dit Catherine, « feu sur lui !» Les sentinelles ajustèrent, mais Henri était déjà trop loin. « Il fuit !» s'écria la reine-mère, « donc il est vaincu !»« Il fuit !» murmura le duc d'Alençon, « donc je suis roi !» Mais au même instant, et tandis que François et sa mère étaient encore à la fenêtre, le pont-levis craqua sous les pas des chevaux, et précédé par un cliquetis d'armes et par une grande rumeur, un jeune homme lancé au galop, son chapeau à la main, entra dans la cour en criant « France !» suivi de quatre gentilshommes, couverts comme lui de sueur, de poussière et d'écume. « Mon fils !» s'écria Catherine en étendant les deux bras par la fenêtre. « Ma mère !» répondit le jeune homme en sautant à bas du cheval. « Mon frère d'Anjou !» s'écria avec épouvante François en se rejetant en arrière. « Est-il trop tard ? » demanda Henri d'Anjou à sa mère. « Non, au contraire, il est temps, et Dieu t'eût conduit par la main qu'il ne t'eût pas mené plus à propos. Regarde et écoute !» En effet, M. de Nançay, capitaine des gardes, s'avançait sur le balcon de la chambre du roi. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il brisa une baguette en deux morceaux, et les bras étendus, tenant les deux morceaux de chaque main, « Le roi Charles IX est mort ! Le roi Charles IX est mort ! Le roi Charles IX est mort » cria-t-il trois fois, et il laissa tomber les deux morceaux de la baguette. « Vive le roi Henri III !» cria alors Catherine en se signant avec une pieuse reconnaissance. « Vive le roi Henri III !» Toutes les voix répétèrent ce cri, excepté celle du duc François. « Ah, elle m'a joué !» dit-il, déchirant sa poitrine avec ses ongles. « Je l'emporte !» s'écria Catherine, « et cet odieux Béarnais ne règnera pas !»